crocodile sacré aux couleurs primaires.
Il est 7h.
Retrouvez Aperçons l'actualité avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
A tout à l'heure sur RFI.
RFI, 7h à Paris, 6h en temps universel.
RFI Matin.
Bonjour Martin Guez.
Bonjour Andréane Mellard, bonjour à toutes et à tous.
À la une, Xi Jinping parle aux puissants.
Un appel à Vladimir Poutine, suivi d'un autre à Donald Trump. Le dirigeant chinois s'érige en arbitre, se place au centre du jeu mondial et se veut garant de la stabilité. Une séquence loin d'être anodine, nous appellerons notre correspondante à Pékin, Cléa Broadhurst, dans un instant. Nous appellerons aussi dans le journal Siavash Gazi à Téhéran, alors que la rencontre à Oman entre l'Iran et les États-Unis a été confirmée. Rencontre sous tension qui laisse augurer de négociations difficiles. Négociations fructueuses, selon Kiev, entre l'Ukraine et la Russie à Abu Dhabi, alors que Moscou continue de frapper sur la capitale ukrainienne et sur Kharkiv, où les habitants grelottent, même dans le métro, où il fait à peine zéro. Reportage à suivre. Vers la fin du clan Kadhafi, en Libye, considérablement affaibli après la mort hier de Saif al-Islam, le deuxième fils de Muammar Kadhafi. Et puis enfin, en fin de journal, Mariam retrouve Amadou sur grand écran après la mort d'Amadou Bakayoko. Le couple le plus célèbre de la musique malienne se reforme, ce au cinéma.
De Moscou à Washington, Xi Jinping au cœur du jeu diplomatique.
Les lignes téléphoniques qui ont chauffé hier à Pékin, puisque le dirigeant chinois s'est d'abord entretenu avec Vladimir Poutine, puis avec Donald Trump. Deux appels pour un seul message, montrer que la Chine peut être une puissance de stabilisation. Et on est justement en ligne depuis Pékin avec notre correspondante Cléa Broadhurst. Cléa, Xi Jinping parle à tout le monde et surtout aux deux grandes puissances, tout sauf un hasard.
Oui, en fait, la séquence est soigneusement calibrée. En dialoguant coup sur coup avec Moscou puis Washington, Xi Jinping met en scène une Chine capable de parler à tous les pôles de pouvoir, alors que l'architecture de sécurité mondiale vacille. Alors à Vladimir Poutine, Pékin réaffirme la coordination stratégique, l'ordre multipolaire et une convergence assumée face aux États-Unis. Moscou soutient en retour explicitement la position chinoise sur Taïwan. À Donald Trump, le ton est un peu plus mesuré, rappel au dialogue, gestion des différents, coopération pragmatique. Mais le message est clair. Sur Taïwan, Xi Jinping avertit que Washington doit faire preuve de, je cite, prudence. Aucune ambiguïté n'est tolérée sur ce que Pékin considère comme son cœur de souveraineté. Sur le fond, la Chine reste sur une ligne de retenue. Elle évite tout engagement contraignant sur les dossiers les plus sensibles, hein, contrôle des armements, expiration du traité New Start, nucléaire iranien. Pékin occupe l'espace diplomatique sans endosser le rôle de médiateur officiel, préservant ses partenariats et ses marges de manœuvre, tout en exploitant les fractures occidentales. Dialoguer avec tous, s'engager peu, fixer ses lignes rouges, la Chine prépare moins la résolution des crises que l'ordre stratégique qui viendra après, Martin.
Merci Cléa Broadhurst, en direct de Pékin sur RFI. Et Donald Trump a lui qualifié son coup de fil avec Xi Jinping d'excellent appel.
Autre discussion, cette fois-ci à Abu Dhabi.
Jugée fructueuse par le négociateur ukrainien, des pourparlers entre l'Ukraine, la Russie et les États-Unis qui doivent se prolonger aujourd'hui aux Émirats arabes unis. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky dit s'attendre à de prochains échanges de prisonniers. La Russie a elle menacé de poursuivre la guerre si Kiev n'acceptait pas ses conditions. La Russie qui a repris ses frappes sur Kiev et sur les infrastructures énergétiques du pays cette semaine après quelques jours d'accalmie, privant des milliers d'Ukrainiens de chauffage et d'électricité alors que les températures avoisinent les moins 20 degrés, notamment à Kharkiv, la deuxième ville du pays où se trouve notre correspondante Emmanuel Chaz.
Dans le métro de Kharkiv, les températures montent à peine au-dessus de 0 degré Celsius. C'est pourtant dans ces stations que 24 heures sur 24, les habitants peuvent se réfugier. Plus de 900 immeubles résidentiels sont toujours sans chauffage. Katia, 20 ans, se rend chez des amis qui ont de l'électricité. Elle veut rester optimiste.
Le chauffage et l'électricité, c'est un concept de conte de fées. Et on ne peut pas s'attendre à ce que ce soit là tout le temps, comme pour Albus Dumbledore dans Harry Potter. On a des lampes de poche et des batteries externes. Ça nous aide, on s'adapte.
En plus de s'adapter à la vie à moins 20 degrés Celsius, sans chauffage et sans électricité, à Kharkiv, il faut aussi survivre aux frappes russes quotidiennes. Tetiana, 24 ans, vient justement de réchapper à une frappe de drone.
On a l'électricité, le chauffage et l'eau, mais c'est très compliqué. Et hier, un drone Shahed est tombé juste devant la maison. Dieu merci, nos fenêtres sont intactes et à part nos animaux, personne n'était à la maison.
Tetiana et sa famille ont survécu à ces frappes. Elle et le reste de la population sont en mode de survie, alors que Denis Shmyhal, le ministre de l'énergie, annonce que d'autres frappes russes sur le secteur énergétique seraient en préparation. Emmanuel Chasse, Kharkiv, RFI.
La fin d'une ère, Martin. Le traité New Start s'est arrêté cette nuit.
Ce traité de désarmement nucléaire qui liait les États-Unis et la Russie depuis 2010, il limitait chaque partie en termes de lanceurs et d'ogives. Les inspections mutuelles avaient, elles, été suspendues en 2023 à cause de l'offensive russe à grande échelle lancée en Ukraine. C'est un moment grave pour la paix et pour la sécurité internationale, a regretté le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. On y revient longuement dans le journal international de 7h, temps universel, et on y reviendra aussi avec le général Pierre de Villiers, ancien chef d'état-major des armées françaises. Il sera l'invité d'Arnaud Pontus, juste après ce journal.
Nucléaire, encore au menu des discussions entre les États-Unis et l'Iran cette fois.
Washington et Téhéran qui ont rendez-vous finalement à Oman ce vendredi. Une rencontre confirmée tard hier soir par les États-Unis, alors que les deux pays alternent menaces et ouverture au dialogue. On est en ligne de Téhéran avec Siavosh Ghazi. Siavosh, l'Iran et les États-Unis se retrouvent demain, quelques semaines après la terrible répression des manifestations en Iran, quelques jours après plusieurs incidents en mer d'Arabie et 7 mois après la guerre de 12 jours et les bombardements américains sur l'Iran.
Absolument. Les négociations nucléaires sont programmées pour vendredi à 10h à Oman, a écrit mercredi soir le chef de la diplomatie iranienne Abbas Araghchi, mettant fin au suspense après des rumeurs et des informations sur l'annulation de la rencontre. Les grands pays de la région, l'Égypte, la Turquie, l'Arabie Saoudite, mais aussi le Qatar, Oman ou encore la Jordanie et le Koweït, qui ne veulent pas d'une nouvelle guerre dans cette zone, se sont mobilisés pour demander à Washington de maintenir les discussions. Ces négociations semblent toutefois difficiles. En effet, l'Iran a clairement affirmé qu'il n'était pas question de négocier sur son programme balistique et ses capacités militaires, comme l'exigent les États-Unis. Washington demande en effet que l'Iran réduise la portée de ses missiles à moins de 500 km, ce qui signifie que Téhéran ne pourrait pas frapper ou réagir et riposter contre Israël. Sur le dossier nucléaire, l'Iran refuse également la demande américaine d'abandonner totalement son programme nucléaire, notamment l'enrichissement d'uranium, mais accepterait de réduire son niveau d'enrichissement à moins de 20% pour donner des garanties sur le caractère pacifique de son programme. L'Iran demande par ailleurs aux Américains de ne plus menacer le pays d'actions militaires, ce qui rend les négociations particulièrement difficiles.
Merci Siavosh Ghazi, en direct de Téhéran sur RFI.
À Gaza, les frappes israéliennes continuent malgré le cessez-le-feu.
Au moins 24 personnes sont mortes dans des bombardements israéliens hier, comme l'annoncent les services de santé palestiniens. Et ce malgré la trêve, entrée en vigueur le 10 octobre dernier, un secouriste du Croissant Rouge a notamment été tué. Au moins 556 Palestiniens sont morts dans des bombardements de l'armée de l'État hébreu depuis le cessez-le-feu, selon le ministère de la Santé de Gaza.
RFI minuit 8 à Minneapolis où l'ICE voit fondre ses effectifs.
L'ICE, c'est la police de l'immigration. Des milliers de manifestants se mobilisent depuis des semaines pour demander le départ de ces agents fédéraux après la mort de deux citoyens américains, René Good et Alex Preti. Demande en partie entendue par Tom Homan, l'émissaire de Donald Trump, qui a annoncé que 700 agents fédéraux allaient bien quitter le Minnesota. 2000 autres, en revanche, restent en poste.
L'actualité sur le continent africain à présent et cette enquête ouverte en Libye.
Annonce qui est tombée tard hier soir, le parquet général de Tripoli a bien ouvert une enquête après la mort de Saïf al-Islam Kadhafi, tué à Zintane, au sud-ouest de Tripoli. Le fils cadet de Muammar Kadhafi avait 53 ans et sa mort pourrait profiter à de nombreux acteurs politiques locaux qui le percevaient comme un rival, nous dit Virginie Colombier, docteur en sciences politiques.
Il avait compris qu'il avait intérêt à jouer cette carte de la réconciliation nationale. Je ne dis pas s'il y croyait pas, mais disons qu'il a tenté de se positionner de cette manière dans un contexte où depuis maintenant plus de 10 ans, on a un pays qui est divisé entre deux camps. Et donc lui tenter de reprendre le flambeau de l'idée d'une Libye unie et qui a été rassemblée autour d'un grand projet de réconciliation nationale. Ce n'est pas quelque chose qui était nécessairement bien vu de la part des deux principaux centres de pouvoir qui vraiment voient cette perspective d'une troisième voie, en fait, ou d'une troisième composante du camp politique comme un possible danger pour leur capacité à se mettre d'accord et à continuer à partager le gâteau du pouvoir et des ressources.
Des propos recueillis par Clotilde Hazard. Notre dossier sur la fin du clan Kadhafi en Libye est à lire sur notre site internet RFI.fr.
Plus de 4 tonnes de cocaïne à destination de l'Afrique du Sud saisies en Polynésie française.
Le navire intercontinental interceptés par la marine nationale venaient d'Amérique centrale et ils transportaient 174 ballots de cocaïne. La drogue a été détruite en mer. Le navire et son équipage ont repris leur navigation. Le parquet n'a pas engagé de poursuite car la drogue n'était pas destinée au marché polynésien.
C'est à la une aussi aujourd'hui la plateforme chinoise Shein, à nouveau devant les tribunaux français.
Pour cette audience en appel de la demande de suspension de Shein par l'État français, suspension évitée pour l'instant pour le géant chinois de la mode à bas prix. Shein qui proposait sur sa plateforme des poupées pédopornographiques, des armes et même des médicaments interdits. Des produits depuis retirés pour éviter d'être suspendus. Mais ce n'est pas suffisant pour l'État français, Myriam Berber.
Pour le gouvernement français, Shein continue de ne pas respecter la loi. Il considère en effet que ces dommages, loin d'être isolés, sont au contraire répétés et que les risques systémiques de sa plateforme de commerce en ligne méritent d'être réexaminés. L'État français ne veut pas interdire à Shein de faire du commerce, mais réclame un cadre contraignant pour sécuriser les consommateurs. C'est la marketplace sur son site qui pose problème. Cet espace permet en effet à un grand nombre de vendeurs indépendants de proposer des produits qui, très souvent, contreviennent à la réglementation française. Le géant chinois a reconnu des failles sur son site et a pris des mesures, ce qui a permis une réouverture progressive de sa marketplace. Shein est également dans le collimateur de la Commission européenne. Une procédure pourrait être lancée et déboucher sur des sanctions financières, voire une suspension de sa plateforme qui compte aujourd'hui 45 millions d'utilisateurs réguliers par mois au sein de l'Union européenne.
Explication signée Myriam Berber du service économie de RFI.
Unis par la musique, unis à l'écran, Amadou et Mariam se retrouvent.
Amadou est parti, mort à Bamako en avril dernier, mais le couple iconique de la musique malienne se reforme au cinéma. Amadou et Mariam, Son du Mali, a été tourné entre 2021 et 2023 et sera ce week-end sur une centaine d'écrans en France. Un dernier adieu chargé d'émotions, Léa Boutin-Rivière.
Amadou,
oui,
tu es prêt?
Oui, super.
Pendant une heure et demie, Amadou et Mariam, Son du Mali, redonnent vie à Amadou Bagayoko, disparu en avril 2025, et surtout à la relation fusionnelle qui l'unissait à Mariam Doumbia, son binôme à la ville comme à la scène.
Quand un couple devient une entité, c'est ça qui crée la magie.
De Mathieu Chédid à Tikenja Fakoli, en passant par Chris Martin, de nombreux artistes reviennent tout au long du film sur leur admiration pour Amadou et Mariam et leur influence internationale. Il faut dire qu'en 4 décennies de carrière, le couple a multiplié les projets. Mariam.
Coldplay, on a fait des tournées ensemble, on a travaillé avec Manu Chao, on a fait plein de choses, plein de featuring avec ces gens-là. Donc quand j'y pense beaucoup à eux, vraiment, ça me donne toujours le courage, quoi.
Finalement, là aussi, il est question d'amour, car après tout, le message d'Amadou et Mariam, celui du film, c'est avant tout celui-là.
Message d'entente, message de paix, message d'amour. L'amour qu'on avait, on a partagé avec tout le monde.
Avec Mariam et avec Amadou que se referme ce journal. Ça fait chanter tout le monde en studio. Place à André de Mellard pour la suite de RFI Matin.
Martin Guèze pour le journal. Merci beaucoup. 7h13 à Paris. Prochain journal dans un bon quart d'heure sur RFI. Avant, on parle espace dans Aujourd'hui l'économie et défense avec notre grand invité international, le général Pierre de Villiers, ancien chef d'état-major des armées françaises, auteur du livre « Pour le succès des armes de la France ». C'est publié chez Fayard. D'abord, c'est le journal des sports. Victor Messistrano à la une. Le foot en Angleterre. On connaît, ça y est, l'affiche de la finale de la Coupe de la Ligue.
Manchester City Arsenal. Ce sera le 18 avril à Wembley. Les Citizens ont rejoint hier les Gunners. Déjà vainqueur du match aller 2-0 contre Newcastle, l'équipe de Pep Guardiola s'est de nouveau imposée 3-1 avec un doublé d'Omar Marmouche, son premier de la saison. En moins d'une demi-heure, l'attaquant égyptien a marqué autant de buts que lors de ses 19 précédentes apparitions.
Hier soir, Victor, on jouait aussi la suite des huitièmes de finale de la Coupe de France, un trophée que le PSG, éliminé au tour précédent, ne remportera pas.
De quoi renforcer les ambitions des autres clubs et notamment de Lyon, vainqueur de Laval, club de Ligue 2 2-0. L'OL, délivré par sa recrue brésilienne Hendrick d'une frappe surpuissante à 10 minutes de la fin. Qualification aussi de Lens hier à 3, un succès 4-2 avec un doublé du Sénégalais Abdallah Sima. Écoutez la réaction de son coéquipier, le défenseur Malanxar.
On joue contre une équipe qui domine le championnat Ligue 2, donc on joue pas n'importe qui. C'est une équipe qui a besoin de monter en Ligue 1. On y a quand même 4 buts.
On a réussi à avoir une assise défensive, on s'est mis un peu en danger nous-mêmes. Ils ne nous ont pas vraiment mis en danger. Donc je pense que sur la copie générale du match, on s'en sort très bien. C'était un piège, on n'est pas tombé dedans.
Ce soir, suite et fin de ces huitièmes de finale de la Coupe de France, Strasbourg accueille Monaco. C'est à 20h, temps universel.
Et au même moment ce soir, il y a du rugby aussi au programme avec le début du traditionnel tournoi des Six Nations.
Oui, chaque année, les six meilleures équipes de l'hémisphère nord se donnent rendez-vous. La France et l'Irlande, qui se sont partagées les quatre dernières éditions au palmarès, s'affrontent ce soir en ouverture au Stade de France. C'est lors de leur dernière confrontation qu'Antoine Dupont s'était blessé au genou l'an dernier. Le capitaine des Bleus est de retour. Et si les Français sont tenants du titre et favoris face à une équipe en perte de vitesse, il faut toujours se méfier des Irlandais, selon lui.
C'est souvent quand on sous-estime un peu les équipes qu'on peut se faire surprendre. Ça reste une équipe très expérimentée, même avec des blessures. On voit les noms qu'il y a sur la composition. Il n'y a que des joueurs qui connaissent le niveau international et qui plus est, leur système de jeu, c'est un jeu fait sur le collectif, sur un jeu de système. Ça repose peu ou moins sur les individualités, du moins. Ils connaissent ce tournoi par cœur. Comme je disais, ils sont très expérimentés. Donc on ne peut que s'attendre à avoir un gros match et une équipe au rendez-vous, au maximum de son potentiel. On les a quand même très très rarement vu passer à côté d'un match du tournoi.
Antoine Dupont au micro RFI de Pauline Guillou. Et puis du basket en NBA, le meilleur joueur de la saison dernière, le MVP Shai Gilgeous-Alexander, va manquer le match des étoiles, le All-Star Game qui a lieu dans 10 jours. Le meneur canadien est blessé aux abdominaux, annonce son club d'Oklahoma City. Enfin, parmi les nombreux transferts qui passionnent les fans en ce moment, citons celui d'Anthony Davis, le champion olympique américain qui quitte Dallas pour rejoindre Washington. Vice-champion olympique avec la France, Gershon Yabusele rejoint les Chicago Bulls où il espère retrouver du temps de jeu après un passage compliqué à New York.
Victor Missistrano pour le journal des sports. RFI, tout de suite, c'est notre rendez-vous. Aujourd'hui, l'économie. Bonjour Stéphane Genest.
Bonjour Andriane.
On revient avec vous, Stéphane, sur l'acquisition cette semaine par SpaceX de la société d'intelligence artificielle xAI. Objectif, réunir sous une même bannière l'expertise en lancement spatiaux, en réseau de satellites et en intelligence artificielle. Et plus concrètement, derrière cette manœuvre, Stéphane, l'aboutissement d'une ambition qui semble de plus en plus réaliste, celle de déployer des centres de données pour l'IA en orbite autour de la Terre.
Mais oui, vous avez bien entendu, des centres de données à plusieurs milliers de kilomètres au-dessus de notre tête. Alors c'est vrai que ça peut paraître futuriste, mais le projet est on ne peut plus concret. Et pour en comprendre l'intérêt, il faut retourner quelques secondes sur Terre, où les centres de données pour l'IA existent déjà, ça on le sait. Ces immenses installations consomment énormément d'électricité pour alimenter les processeurs et d'eau pour refroidir les machines. La demande, elle explose. Résultat, des structures de la sorte en orbite dans l'espace verront le jour par centaines dans les prochaines années.
Et pourquoi pas seulement sur Terre ?
Parce que mettre des centres de données dans l'espace, ça comporte de nombreux avantages en termes de place, d'abord, mais surtout en ce qui concerne la consommation d'énergie. Les capteurs photovoltaïques spatiaux peuvent recevoir jusqu'à 8 fois plus d'énergie solaire que leur équivalent en sol. Pas de facture d'électricité à payer, donc. L'autre avantage est aussi considérable, il concerne le refroidissement. Plus besoin d'eau, l'énergie captée grâce au soleil peut aussi être utilisée pour des sortes de climatiseurs spéciaux pour l'espace, comme c'est d'ailleurs déjà le cas dans la Station Spatiale Internationale.
Donc, derrière toute cette mécanique, il y a un enjeu primordial, il est financier. L'objectif est simple pour les géants de l'IA, faire des économies.
Exactement, c'est un pari dont les montants sont colossaux. D'ailleurs, ils sont difficiles à estimer tant c'est encore vague. En tout cas, une chose est sûre, les investissements dans les data centers terrestres se chiffrent déjà en centaines de milliards de dollars. Leurs homologues spatiaux apparaissent donc à la fois comme une extension de cette dynamique, mais aussi comme une sorte d'excuse pour entretenir l'enthousiasme des marchés pour continuer d'investir dans l'IA. Car mine de rien, la question centrale, ça reste la rentabilité. Dans l'espace, je simplifie, mais on l'a compris, pas de loyer ni d'électricité à payer, juste un lancement avec une fusée et un satellite équipé d'un centre de données.
Et c'est pour ça que SpaceX d'Elon Musk s'intéresse au sujet.
Oui, puisqu'il détiendrait une entreprise capable de lancer des fusées, de connecter des millions de satellites et de produire de la puissance de calcul à l'échelle mondiale. Mais attention, si sur le papier ça semble simple,
simple. En effet, le projet suscite de fortes réserves. D'abord sur l'aspect technique. Si demain, un satellite tombe en panne, impossible de le réparer comme un site sur Terre. De même, s'il y a une collision avec un objet spatial, comme des débris spatiaux. Ensuite, il faudrait énormément de satellites pour avoir un réseau de centres de données, donc énormément de lancements. Autrement dit, une somme colossale à dépenser. Et puis, Andréane, il y a la question environnementale, car lancer une fusée, ça génère une pollution importante. Quoi qu'il en soit, ça n'est pas pour dans les prochains mois. Selon différents cabinets d'études, la viabilité commerciale d'un tel type de projet ne pourrait émerger au mieux qu'entre 2032 et 2035.
Stéphane Genest pour aujourd'hui l'économie. 7h20 à Paris, on passe à notre invité. En studio ce matin face à Arnaud Pontus, le général Pierre de Villiers, ancien chef d'état-major des armées françaises, auteur du livre « Pour le succès des armes de la France » est publié chez Fayard.
Bonjour Pierre de Villiers.
Bonjour monsieur.
Soyez le bienvenu. Avant d'en venir à votre livre, l'actualité du jour, c'est évidemment la fin du traité New Start. Le dernier traité de désarmement nucléaire entre les États-Unis et la Russie est arrivé à expiration il y a maintenant quelques heures. Est-ce que le monde est encore plus dangereux ce matin ?
C'est-à-dire que c'est symbolique de la fin de l'ancien monde, le monde où c'était la force du droit. Nous sommes passés au droit de la force. En fait, nous faisons face depuis une dizaine d'années, c'est pas nouveau, au retour des États-puissances qui ont des stratégies de long terme et qui réarment de 5 à 10% par an depuis une vingtaine d'années. On peut citer la Chine avec la route de la soie, la Turquie, le retour de l'Empire ottoman, la Russie, la grande Russie orthodoxe, les États-Unis, America First, l'Inde avec la puissance démographique, et puis simultanément le terrorisme islamiste radical qui s'appuie sur des mouvements de par le monde, différents mais avec la même idéologie, remplacer l'organisation de nos sociétés par la violence, érigée non pas en moyen mais en fin.
Vous constatez que l'ordre mondial a disparu, écrasé par les rapports de force, c'est ce que vous nous dites. Nous ne sommes plus tout à fait en paix, mais pas encore en guerre, écrivez-vous. Vous pensez donc que la guerre est pour demain, général ?
Je pense que nous sommes dans une grande phase d'instabilité. Nous sommes dans un monde volatile, incertain, qui n'est plus régulé par les stabilisateurs automatiques, ces organisations internationales qui avaient été mises en place à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est pour ça qu'il faut réarmer. Parce que, moi, mon souci, vous savez, les militaires, on n'est pas des pacifistes, on est des pacifiques. Parce qu'on sait que la paix a un prix. C'est pour ça qu'il faut réarmer. Si vis pacem, para bellum, si tu veux la paix, prépare la guerre.
Qui va déclarer la guerre à la France aujourd'hui ? C'est une question que vous répétez dans votre livre, parce que c'est une question que vous ont posé les présidents de la République française que vous avez côtoyés. Mais qui va donc nous déclarer la guerre ?
Eh bien, nous sommes dans une situation de telle instabilité, de telle volatilité que tout est possible. Qui eût cru que M. Poutine envahisse l'Ukraine il y a 4 ans ? Qui eût cru que M. Trump attaque le Venezuela de Maduro. Aujourd'hui, finalement, ces stratégies de long terme de ces États-puissances et doublées, distinctes mais pas disjointes, du terrorisme islamiste radical rendent ce monde très, très difficile à prévoir. Nous devons être prêts. Alors, le général de Gaulle nous a donné des armées françaises, les meilleures d'Europe, mais elles sont petites et elles sont préparées depuis des décennies à faire des opérations de guerre. C'est ce que nous avons fait ces dernières décennies. Mais aujourd'hui, il faut se préparer à faire la guerre. C'est pas la même chose. La guerre, c'est dur et ça dure, c'est long. On le voit en Ukraine aujourd'hui, oui. Des journées avec 1000 morts, des consommations notamment d'artillerie, de drones absolument incroyables.
Et de munitions. Nous sommes très en dessous de tout ça. Là.
Les munitions, nous avons supprimé toutes nos usines de munitions que nous avions avant la chute du mur.
Pierre de Villiers, vous nous dites le monde est plus dangereux, il faut nous réarmer. Est-ce que ça veut dire que vous dites l'armée française est une très belle armée, la première d'Europe, mais est-ce qu'elle est de fait désarmée en quelque sorte, pas suffisamment forte ?
Oui, bien sûr. Nous avons une armée échantillonnaire, capable de mener avec succès des opérations à l'extérieur du territoire national.
Excusez-moi, échantillonnaire, ça veut dire qu'on a de tout, mais en petite quantité,
exactement,
c'est ça?
Exactement, exactement, c'est exactement ça. Nous avons gardé le modèle global, nous avons de tout, y compris dans les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, dans les nouveaux champs, le cyber, l'espace, les fonds marins, mais nous n'avons pas suffisamment de quantité pour être capables de gagner la guerre. Alors après, qui va nous attaquer, pour terminer pour sur la sur réponse question, à votre question, qui peut me dire aujourd'hui que dans les États-puissances, aucun ne va nous attaquer dans les décennies qui viennent? C'est ça, il faut penser l'impensable.
Vous renversez la question.
Je renverse la question.
Oui. Parlons clair, général. Si la France était attaquée militairement, on ne sait pas où est la menace, mais elle est un peu partout, si je vous entends bien. Que se passerait-il? Comment la France pourrait-elle faire face militairement?
C'est la question que je me pose, et en voyant les Ukrainiens, je me dis qu'est-ce qui se passerait si nous étions à la place des Ukrainiens avec des attaques sur notre propre sol. C'est pour ça que, dans mon dernier chapitre, je parle du réarmement des forces morales. Avec la suppression du service militaire en 1995, nous avons une armée professionnelle magnifique mais échantillonnaire, et je me pose la question de cet esprit de défense, de cette appartenance à la communauté nationale, de ce patriotisme, défendre la terre des pères. C'est pour ça que je dis qu'il est urgent de réapprendre aux Français, singulièrement aux jeunes Français, à aimer la France.
Alors le réarmement, il est moral, mais il est aussi évidemment du point de vue des armes, tout bêtement si je puis dire, et ça demande beaucoup d'argent. Dans le budget 2026 de la France, tel qu'il vient d'être adopté, le secteur de la défense, on le dit, est le seul vrai gagnant. 6,7 milliards de plus qu'en 2025, une enveloppe de 57 milliards d'euros. Qu'est-ce que vous nous dites? C'est trop tôt ou c'est pas trop tôt, ou c'est déjà trop tard?
Je dis que déjà les 50 milliards que nous avons ne sont pas 50 vrais milliards, parce que nous avons 8 milliards de reports de charges, c'est-à-dire que les industriels qui n'ont pas été payés sur cette somme, 8 milliards c'est quand
ce
même
que
important.
Nous, devions,
nous avons donné à peu près l'équivalent d'un milliard par an aux Ukrainiens depuis 4 ans et nous n'avons pas calculé l'inflation. Donc parlons de vrais chiffres. Ensuite je dis que ces 6,7 milliards, c'est un effort tout à fait remarquable.
Surtout dans le contexte.
J'en mesure vraiment le volontarisme. Oui. Sauf que c'est trop tard, là. Ils ne seront pas dépensés, on le sait d'ores et déjà, parce qu'entre le moment où vous votez le budget et le moment où ces crédits sont dépensés, c'est très long. Parce que nous n'avons pas l'économie de guerre, parce que nous n'avons pas changé nos procédures, qui sont des procédures de temps de paix. L'économie de guerre n'est pas en place.
Oui, nous sommes trop lents, c'est ça?
Bien sûr, c'est beaucoup trop lent. Et la bureaucratie, la technostructure l'emporte. Donc ces 6,7 milliards ne seront pas dépensés en totalité.
Il y a une dimension qu'on n'a pas encore évoquée, Pierre de Villiers, c'est la dimension européenne. Vous dites que nous sommes revenus au temps des empires. Est-ce que ça veut dire que dans ce cas, il faudrait que l'Europe s'assume en empire, créer un empire européen?
Ce qu'il apparaît, c'est que l'Europe est nue. Si jamais les États-Unis, effectivement, se découplent de nous et que nous perdons notre parapluie... Vous vous rendez compte, nous avons des capacités militaires notoirement insuffisantes, nous n'avons pas construit une industrie européenne de défense, et la fameuse défense européenne, c'est un leurre. Moi, j'appelle de mes voeux une coopération européenne en matière de défense, qui soit sur des projets concrets, interétatiques. Vous savez, à la guerre, moi j'ai commandé 15 pays en Afghanistan, 2500 hommes, quand il y avait un problème, un mort, un blessé, un événement, ils appelaient d'abord leur capitale, c'est tout à fait normal. Et ensuite, ils appellent...
Ça veut dire qu'une armée européenne, c'est hors de question?
Le terme...
Vous parlez de mythe. Hein,
le terme est impropre, c'est un mythe. Et ça se terminera en cauchemar et en échec. Parce que c'est la coopération européenne de défense qu'il faut construire en respectant les logiques et les souverainetés des nations. C'est ça qu'il faut faire. On ne fusionne pas des unités au combat, on les accole et on leur permet de combattre ensemble. Nous sommes sur une fausse piste d'une Europe fédérale qui ne dit pas son nom. Moi, j'appelle de mes voeux, j'espère que ça va créer un sursaut européen pour que cet abandon, entre guillemets, des Américains nous contraigne dans cette situation à accélérer nos coopérations. On le voit pour la force des volontaires, c'est une très bonne chose, la force des volontaires.
Pour l'Ukraine.
Une nation cadre et des volontaires qui amènent leurs forces.
Merci, général Pierre de Villiers, d'être venu ce matin.
Merci de m'avoir invité.
Un entretien avec Arnaud Pontus.
Bonjour,
Alors, pour les 11 ans du festival Abidjan Capitale du Rire, nous vous proposons encore les spectacles d'humour les plus drôles du monde entier. Vendredi 13 février, la crème du stand-up africain sera au Gondwana Club. Samedi 14, au Palais de la Culture, Michel Gohou, Dick de Cravate et Maman, oui, c'est moi, dans un spectacle intitulé Les Malhonnêtes. Et dimanche 15 février, les meilleurs humoristes du continent s'affronteront dans le Classico et on remettra son trophée au lauréat du 11e prix RFI Talent du Rire. Abidjan Capitale du Rire, mon ami, il n'y a pas mieux, hein.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui,
la sexologue de l'émission Noël Caillarcy vous répond en direct.
Demain,
journée mondiale de lutte contre l'excision et les mutilations féminines.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Sounou Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI. Tout à l'heure sur RFI, sur le Pont des Arts, Nathalie Amar.
Elle est née aux États-Unis, mais sa musique est la synthèse de ses origines entre le Congo, l'Inde et la Belgique. Avec son nouvel EP, Happy People, Sian Potok se connecte un peu plus à ses racines africaines et à l'intérieur.